Ça veut dire donc, d'après ce texte que Maïmonide vient de citer, si vous voulez, je vais vous le dire. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Rabban Shimon ben Gamliel enseignait Lo Yomar Adam, Yefshi Lechol Basar Vechalav. L'homme ne doit pas dire je ne peux pas manger de la viande et du lait mélangés. Yefshi Lilbosha Atnez. Je ne peux pas m'habiller avec un mélange de lin et de laine, vous savez que c'est interdit. Et il y a des raisons pour ça d'ailleurs. IFC d'abord à la Herva, je ne peux pas contracter un mariage interdit. Et là, il doit dire IFC, je peux. Ou ma essayé, mais qu'est-ce que je peux faire? Abish et Bashamaïm Gazaralai, Dieu m'a interdit. Bon. Il est bien clair donc que la tendance des rabbins de la tradition juive est littéralement opposée à la thèse de la philosophie telle que Maïmonide l'avait citée. C'est que, au contraire, celui qui doit lutter contre ses penchants et par conséquent est dans une expérience de difficulté morale, il n'atteint pas le bonheur moral puisqu'il voit sa vertu et le résultat d'une lutte. Celui-là est plus grand que celui qui, alors là, je reprends Maïmonide, il faut le lire avec humour, soi-disant, fait semblant que sa nature coïncide avec la loi. Et alors c'est là que j'avais ajouté, là que vous avez réagi, qu'il est indéniable que l'exercice de la vertu mène le tzaddik à devenir chassid dans cette définition. À force d'être vertueux, eh bien ça demande de moins en moins d'efforts. Et on arrive à ce stade d'où parle Rabban Shimon ben Gamliel, qu'on ne peut pas faire ce que la Torah interdit. Alors c'est là que Rabban Shimon ben Gamliel nous dit, faites attention, vous allez perdre votre mérite. Récupérez l'envie de le faire. C'est clair. Attendez, j'ai pas fini. Ne croyez pas, c'est la vie. Vous savez, on arrive à ce stade. J'ai dit envie, il ne faut pas le faire, mais on arrive à ce stade, si vous voulez, que la récompense de la vertu, c'est la chassidoute. Que la récompense d'être tzaddik, c'est la chassidoute. C'est-à-dire que le tzaddik va arriver, et c'est la récompense de ses efforts, à un stade où il ne pourra pas faire ce que la Torah interdit. Voilà. Si vous voulez, on peut prendre des exemples poussés à la limite. Est-ce que vous pouvez imaginer, je ne sais pas si je vous l'ai cité un jour, mais est-ce que vous pouvez imaginer un Rosh Yeshiva dans un cabaret? C'est pas possible, il ne peut pas y aller. C'est pas parce que, ça ne se fait pas, ou c'est pas parce qu'il serait gêné, c'est qu'il tomberait en syncope, il ne peut plus. Vous comprenez ce que je veux dire? On arrive à un certain stade de l'exercice de la vertu où la récompense, c'est qu'on ne peut plus, on a perdu la liberté. Et je crois que ça peut être formulé de cette manière. Finalement, la récompense de la vertu, c'est de ne plus être libre de faire le mal. Alors, bien entendu, vous allez réagir en disant, mais alors, il n'y a plus aucun mérite. Et c'est ça, les deux étapes. Hein. Les philosophes nous parlent finalement d'être irréels chez les goïms, d'être qui ne sont réels que dans les yeshivot. Hein. Et c'est ça qui s'appelle chassid. Mais les rabbins, elles nous disent, il ne faut pas vous prendre au sérieux. Il faut effectivement vous définir au niveau de la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire l'homme avec ses deux instincts, ses deux tendances, et de savoir qu'être un bon tzaddique, c'est plus méritant que d'être chassid si jamais ça vous arrive. Et si jamais ça vous arrive d'être chassid de ce sens-là, dans le sens philosophique, un homme qui n'a plus de tendance au mal. Mais ça n'existe pas. Et ceux qui font semblant de croire que ça existe, ce sont des philosophes. Mais dans la réalité, ça n'existe pas. Alors, de ces chassidim-là, ce genre de chassid-là, chassid théorique qu'il y a dans la littérature, le tzaddik est plus fort. Seulement, dit Maïmonide, il semble que certains versets de la Bible donnent raison à la thèse de la philosophie. Puisque nous avons des versets, surtout des versets d'Epsaume et du verset du roi Salomon, qui disent la louange de celui qui, de par lui-même, désire ce que veut la loi et disqualifie celui qui doit, celui qui veut le mal, même s'il fait le bien, celui-là est malheureux. Et cependant, Maïmonide va nous dire, il n'y a pas de contradiction en réalité. Première approche, c'est que la Bible parle de l'être hébreu, alors que les rabbins du Talmud parlent de l'être juif. Nous récupérons un peu l'analyse historique de tout à l'heure. Ça veut dire, effectivement, lorsqu'on a intégré les valeurs bibliques, alors effectivement, la philosophie a raison, aurait raison. Et lorsqu'on a intégré complètement l'amour de la loi, le fait de par soi-même vouloir ce que veut la loi, on est supérieur à celui qui est encore en cours d'exercice. Mais si j'ose dire, voici comment Maïmonide nous indique l'explication, les philosophes ont raison lorsqu'ils parlent de ces grands, de la sainteté des Hébreux, mais non pas lorsqu'ils font semblant de parler de l'homme de la philosophie. Dans le monde de la philosophie, ça n'existe pas un racisme. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc il n'y a pas de contradiction. Les versets de la Bible ont raison de dire que le chassid est plus haut que le tzaddik qui doit faire effort, mais dans la réalité, nous sommes tous des tzaddikim faisant effort. Voilà le premier éclairage. Et d'autre part, et c'est là que nous arrivons à l'explication originale de Maïmonide. D'autre part, Maïmonide a mis en évidence que les commandements, les lois qui ont été désignés par cet enseignement de Rabban Shimon ben Gamliel, l'homme ne doit pas dire « je ne peux pas faire ce qui est interdit ». Mais je peux, seulement Dieu m'a interdit. Sont une catégorie bien précise de lois. Ce sont des lois religieuses. Maïmonide nous a dit ceci dans son chapitre. Rabban Shimon ben Gamliel n'a pas dit « l'homme n'a pas le droit de dire « je ne peux pas tuer, je ne peux pas voler, mais je peux, et mais Dieu m'a interdit ». Il n'a pas pris ces exemples-là. C'est-à-dire des valeurs qui sont déjà intégrées par la conscience humaine comme étant connues comme étant le mal de façon évidente, le mal en soi. Et ce qui a été désigné, c'est une toute autre assaise des commandements de la Bible, c'est-à-dire des commandements qui portent entre, dans la relation directe entre l'homme et le Créateur, des commandements religieux, c'est-à-dire des commandements qui mènent à la sainteté et non pas des commandements qui sont au niveau de la moralité dans son sens banal, général, universel. Et par conséquent, c'est la manière dont Maïmonide nous explique qu'en réalité, il n'y a pas contradiction. Et de cette analyse, je pense que c'est suffisamment clair pour l'analyse des deux catégories, tzaddik et chassid, de cette analyse apparaît une définition claire. C'est que le tzaddik est donc celui qui est conforme à une loi, et il reçoit la loi comme hétéronome. Il reçoit la loi comme discipline à laquelle il doit obéir, comme plus que discipline, comme hétéronomie. C'est-à-dire le mérite consiste à obéir à la volonté extérieure à la conscience, à la valeur telle qu'elle se dévoile comme extérieure à la conscience et par rapport à laquelle nous sommes en apprentissage et qu'il faut acquérir. Mais il y a un niveau supérieur. C'est celui où le tzaddik ayant réussi devient chassid et par conséquent a vraiment intégré ce que la valeur demandait au point que c'est lui qui le veut. Je voudrais arriver à clarifier cette différence. Être chassid, c'est vouloir par soi-même ce que la loi veut. Alors la discussion avec la philosophie, c'était de tourner en dérision les postulats de la philosophie dans ce problème, de ne pas croire que ça existe, ça, les chassidim comme ça. Ça se fabrique, mais ça n'existe pas. C'est-à-dire, c'est pas donné dans la réalité. C'est acquis après cet énorme effort du tzaddik et lorsqu'il arrive à vraiment réussir à intégrer comme sa volonté propre ce qui a été en réalité, à l'origine, une volonté qu'il découvre à l'extérieur de sa conscience dans une révélation. Donc, tu vois, l'objectif du tzaddik, c'est de devenir chassid. Et alors on pourrait se demander qu'est-ce qu'il y a de plus. Ce qu'il y a de moins, on savait, c'était la bonne intention, le yachar. Et puis il faut découvrir la loi par rapport à la loi, le contenu de la connaissance morale par rapport à la loi tzaddik. Plus que tzaddik, la loi vraiment intériorisée, celui qui est capable de vouloir par lui-même ce que la loi veut, alors on devrait arriver au bout. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Et pourtant il y a de plus, le kadosh. Et c'est là, si vous voulez, le point culminant de cette échelle de l'acquisition de la conscience morale du kadosh. Essayons de découvrir ensemble, et vous voyez, la réponse est très simple. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus que chassid? Et c'est certainement d'ailleurs aussi la perspective de Maïmonide. Parce que Maïmonide, comme les grands commentateurs du Pirkei Avot, et notamment le Maharal, a cité une Gemara qui se trouve dans Bava Kamma et qui donne l'enseignement suivant. Il a cité en introduction à son commentaire de Pirkei Avot. Il y a trois enseignements dans la Gemara de Bava Kamma qui introduisent la notion de chassidut. L'enseignement est le suivant. Man debae le neve chassida, c'est-à-dire celui qui veut devenir chassid, mais il faut traduire aussi celui qui a besoin de devenir. Bae en araméen, ça veut dire à la fois vouloir et vous voyez, on ne peut pas traduire, mais vous comprenez. Donc, man debae le neve chassida, celui qui doit faire ce passage-là, de tzadik à chassid, alors trois enseignements. Le premier rabbin dit, le kayen mile benzikim. Il faut qu'il réalise scrupuleusement toutes les prescriptions concernant le droit des dommages, nezikim. C'est-à-dire toute cette partie du droit talmudique qui consiste dans l'élaboration de la loi par rapport à la responsabilité, à la culpabilité s'il y a dol, s'il y a dommage, s'il y a hezek, atteinte portée soit à la personne, soit au bien d'autrui. Alors, la Gemara ici nous enseigne que pour arriver vraiment à ce qu'on appelle la chassidut, c'est sur ce point précis que l'effort doit être fait. Être capable, les cahiers mille et nezikim, c'est-à-dire de réaliser les enseignements du Seder nezikim, de faire que dans le monde où on vit, il n'y ait pas de plainte en dommage. Alors on pourra dire qu'il est chassid, et pas seulement tzadik. Deuxième enseignement, le cahier mille des avot. Deuxième enseignement, celui qui veut devenir chassid doit réaliser les enseignements des Pirkei Avot. Et les Pirkei Avot, c'est cette dimension de la moralité qui nous est enseignée dans la Mishnah, qui ne traite pas des rapports avec la vie sociale, des dangers de porter atteinte à la valeur morale, parce qu'il y a rapport d'autrui à autrui en société, dans la vie sociale. Mais les Pirkei Avot enseignent les vertus au niveau de rapports de personne à personne. Et très essentiellement, les rapports de chacun avec la personne humaine, avec l'identité de la personne humaine, au-delà et en dehors des rapports de la vie économique, de la vie sociale, de la vie publique, de la vie politique. Ça, c'est dernier équilibre. La deuxième expérience qui nous est demandée, l'expérience d'un deuxième rabbin qui enseigne, en réalité, non. L'effort doit être porté sur Mille de Havot. Et puis, un troisième enseignement qui dit non, Mille de Brachot. Il faut arriver à réaliser les enseignements concernant les prières, les brachot, c'est-à-dire dans l'ordre des rapports avec Dieu. Et nous avons là un plan de type Maharal très clair. Il y a dans la loi trois dimensions, les rapports avec autrui, les rapports avec Dieu, les rapports avec soi-même. Et l'expérience de chacun de ces rabbins était que les deux autres choses, c'est facile. Mais ça, c'est difficile. Par permutation circulaire, ça veut dire qu'il faut les trois. Mais on a mis l'accent suivant l'expérience de telle ou telle manière d'être homme. Pour certains, la prière, c'est facile. La morale intérieure, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est la vie publique. Alors le rabbin de ces certains a dit, mettez l'accent dans la vie publique, dans l'effort dans la vie publique. Pour quelqu'un d'autre, oui, vous comprenez la méthode. Bien. Et Maïmonide cite cette Gemara en disant que nous avons d'autre part une autre Gemara qui enseigne Chassidut Mebiya le roi Hakodesh. Ce niveau de la Chassidut, donc, de cette ferveur, ce qu'on appellera la piété en langage hébraïque, être capable de vouloir soi-même ce que la loi veut, non pas seulement être capable d'obéir, ça c'est tzadik, mais de vouloir soi-même, ça c'est être chassid, mène à la sainteté, dit une autre Gemara. Mène au Ruach HaKodesh, c'est-à-dire au fond à la capacité d'être prophète, d'avoir vraiment coïncidé avec, lucidement avec le projet du Créateur. Et c'est aussi l'ordonnance que nous avons là. La chassidut mènera à la kedusha. Mais la réponse est très simple. Et c'est là que nous allons devoir passer par un schéma de l'enseignement des kabbalistes. C'est non pas seulement être capable d'obéir à la loi, tzadik, après avoir été yachar. Non pas seulement être capable de vouloir soi-même ce que la loi veut, mais degré supérieur, hein, qui peut dire, être capable de vouloir par soi-même plus. Quoi ? Ce que Dieu veut, pas seulement ce que la loi. Alors, ça c'est kadosh, ça c'est la sainteté. On dira de quelqu'un qu'il est chassid lorsqu'il sait de par lui-même vouloir ce que la loi veut. Et il est toujours, nous dit Maïmonide et l'ensemble des commentateurs, au-dessus et en-delà de la loi. Chassid, c'est l'ifnim mishurat ad-din. La mesure de la loi est là, le chassid est toujours plus ou moins. Hein, parce qu'il est capable par lui-même de donner la vraie loi. Mais il y a un degré supérieur, incommensurablement supérieur. C'est celui qui est capable de vouloir ce que Dieu voulait lorsqu'il a donné la loi. Ça, c'est la Kedusha. Ça, c'est la sainteté. C'est plus que la piété, c'est plus que la moralité dans le sens restreint, c'est plus que la bonne volonté, c'est l'objectif de la Torah, Kedushin Tiyu, Kikadoshani, c'est-à-dire la Kedusha. Et nous reprenons donc le schéma de l'identité d'Isaac. Au point de départ, il y a ce projet avec Abraham, ce projet de coïncider avec l'identité de la créature vraie, c'est-à-dire de coïncider au projet du Créateur, c'est le point de départ, Abraham. Le point d'arrivée, c'est la Kedusha de Jacob. Kedosh, Yaakov et Eloke, Israël. Les trois sont Kedosh, Abraham, Isaac et Jacob. Mais la Kedusha fait une irruption, surtout en Jacob. D'Abraham, il a fallu une sélection, il a fallu séparer Ishmaël de Isaac. En Isaac, il a fallu une sélection, il a fallu séparer Esaü de Jacob. Mais Jacob est tout entier Kadosh. Et c'est pourquoi c'est de Jacob que procède Israël, et non pas directement d'Abraham, de Isaac ou d'Abraham. C'est a posteriori que Jacob récupère Isaac et Abraham en Israël. Mais tant que Jacob n'est pas là, il n'y a pas d'Israël. Encore. Est-ce que vous suivez bien ce schéma? Bien sûr, Abraham et Isaac sont d'Israël, mais a posteriori de Jacob. La preuve, c'est que Ishmaël n'est pas d'Israël, Esaü n'est pas d'Israël. À des nuances très différentes. Ishmaël, c'est un autre manière d'être homme. Isaac, c'est le contestataire. Esaü, c'est le contestataire d'Israël. C'est Israël Moumar. C'est le renégat d'Israël. C'est autre chose. Mais ce n'est pas Israël. Bien. Et donc, effectivement, nous aurons à découvrir ce chemin d'identité, ce cheminement, cet itinéraire d'identité qui se fait en Isaac. Et c'est la raison pour laquelle ces différentes étapes ont été nommées du nom d'Isaac. Vous avez dû remarquer d'ailleurs que Isaac est aidé en cela. Si vous reprenez le texte, c'était Befi Yesharim Roma, ou Kite Zadikim Tit Bara, ou Bilson Hasidim Tit Kada, ou Kereb Kedosim Tit Halal. Et les verbes forment le nom de Rebecca. Voilà, Tit Roma Mrej. Tit Barach Bet, Tit Kadash Kouf, et Tit Halal. Ça veut dire qu'il est aidé par Rebecca. Et c'est frappant d'ailleurs de voir que ce cheminement se fait chez celui des patriarches. Deux caractéristiques importantes apparaissent. Il est le seul à avoir eu une seule femme, et il est le seul à n'avoir jamais quitté Eretz Israël. Isaac. L'histoire d'Isaac est bien précise dans cet ensemble. Je n'ai pas dit que c'est la même chose d'avoir une seule femme et de n'avoir jamais quitté Israël, mais vous êtes en droit de penser. Et oui, parce que avoir une galoute aussi, c'est avoir une concubine. Enfin, je sais, ça ressemble. Pour revenir donc à notre problème, et là, nous devons découvrir, et je vous le rappellerai d'ailleurs très brièvement, quelles sont les vertus principales d'Abraham et d'Isaac qui aboutissent en fin de compte à Jacob. La vertu principale d'Abraham, c'est d'avoir initié le fondement de la conscience morale dans l'expérience religieuse qui a été la sienne, celle de la découverte du Créateur. Et là, tout à l'heure, nous avons eu au niveau du premier homme une première définition avec l'analyse de la pudeur, vous vous rappelez, du respect des valeurs. Et là, la moralité est vraiment fondée en Abraham. C'est pourquoi Abraham est nommé par la tradition, ça s'appuie sur des versets de la Bible, le nouvel Adam. Il s'agit d'Abraham, Adam Gadol Baranakim. Il est nommé l'homme grand parmi les géants, Abraham. Eh bien, c'est dans son expérience primordiale a été celle de la découverte du Créateur. Habituellement, je vous reprends très brièvement cette analyse, habituellement, la notion de création nous pose d'abord un problème théologique, métaphysique. Qu'est-ce que c'est la création dans sa signification métaphysique ou philosophique. Mais ce n'est pas la catégorie qui a frappé les maîtres de la tradition juive. C'est une toute autre catégorie et une catégorie donc morale. C'est-à-dire en quoi la moralité a été fondée par cette découverte d'Abraham qu'il est créature, qu'il a un créateur. Et la réponse est la suivante. Il découvre son être de créature, c'est-à-dire que l'être qu'il possède ne lui appartient pas, a priori, mais lui a été donné. Le Dieu d'Abraham, c'est Dieu connu comme donnant l'être. Et la vertu d'Abraham, la piété d'Abraham, si vous voulez, la moralité d'Abraham, la religiosité d'Abraham, c'est de savoir que Dieu est celui qui donne l'être. Et c'est la première étape. Ce n'est pas, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas déjà Israël. C'est une étape importante, indispensable, de reconnaître que l'être est donné. C'est le commencement de la vertu. C'est-à-dire le fondement de la moralité. Et la finalité de la moralité, c'est précisément acquérir le droit de posséder l'être qui a été donné. L'effort moral a pour objectif de transformer le don de l'être en un acquis d'être. Et ce sont des analyses que vous retrouverez dans pratiquement l'ensemble de l'enseignement des maîtres du Midrash, du Talmud, et en particulier dans la formulation des Kabbalistes. Dieu, connu par Abraham, c'est Dieu qui donne l'être. Et c'est là que la morale commence. Quel est le fondement, la finalité, l'objectif de la moralité? C'est de payer le prix de l'être. Bien entendu, nous en avons parlé vendredi soir, il me semble, bien entendu, les vertus dont nous sommes capables n'arriveront jamais à monnayer l'être que nous allons acquérir en fin d'effort, en fin d'histoire. Mais, et comme je vous dis souvent, je vous cite un Midrash d'ailleurs, tout se passe comme si ce monde-ci est un monde où nous préparons un troc qui se fera au jugement dernier. C'est-à-dire, nous avons des vertus qui sont des vertus au niveau de l'homme. C'est-à-dire, des petites choses, les vertus dont nous sommes capables. Et puis, au jugement dernier, on nous changera cet avoir de vertu avec des vraies valeurs. Et je vous ai donné la comparaison que donnent les commentateurs, et que vous trouvez dans beaucoup d'écoles d'ailleurs, c'est un peu la monnaie telle que nous la connaissons. C'est-à-dire, nous avons une monnaie qui n'a aucune valeur. C'est des jetons de cuivre ou des papiers en papier, des chèques en papier, des billets de banque en papier. Ça n'a aucune valeur. Mais lorsqu'on va au guichet, au jugement dernier, on nous change cette monnaie avec des vraies valeurs. C'est-à-dire, nous jouons sur les vertus de ce monde-ci. Il y aurait scandale, blasphème, à supposer que le mérite de nos petites vertus peut correspondre à l'être vrai qui nous est promis. Mais nous savons que la générosité du Créateur fera que nos papiers, nos chèques auront une provision. Je veux dire que nos papiers seront transformés en vraie valeur. Mais il faut savoir que c'est uniquement le papier qu'on apportera qui sera changé, pas plus, pas moins. Enfin, pas moins, mais pas plus. Par conséquent, ce papier qui n'a aucune valeur a une énorme valeur, déjà maintenant. Vous comprenez le problème. C'est-à-dire, évidemment, ne pas tomber dans ce piège grossier de croire, ce serait blasphématoire, que nos mérites nous font acquérir l'être. Non, nos mérites nous font acquérir, comment vous dire ça, cette espèce d'être fantomatique qui est l'être de ce monde-ci. Mais ça sera changé en être vrai. Enfin, moi, il faudra voir quoi aller chez le changeur. Et à propos de quoi, je vous dis ça? Oui, la vertu donc d'Abraham, c'est de percevoir Dieu comme créateur, ça veut dire celui qui donne l'être. Et c'est là que la conscience morale s'éveille. Il n'y a que une expérience où le fondement de la moralité a pour objectif et finalité l'acquisition de l'être, où la morale commence à devenir quelque chose de sérieux. Ailleurs, eh bien, on vous proposera d'autres critères, d'autres fondements, je ne sais pas quoi, l'utilitarisme, l'hédonisme, le démonisme, tout ce que vous voudrez, enfin, vous lisez dans les manuels et chez les philosophes, ben, tout ça, ce n'est pas sérieux, c'est la moralité rapportée à autre chose. La moralité vraie a pour objectif, dans l'enseignement biblique, l'acquisition de l'être. En d'autres termes, ce qui est le fondement de la théologie dit, le salut passe par la morale, et pas par autre chose. L'erreur, encore une fois, c'est de croire, c'est de tomber dans cet orgueil, de croire que ce sont nos mérites à notre petitesse qui peuvent nous faire obtenir le salut. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit que de la monnaie qui sera changée le jour où nous accéderons au monde des valeurs. Et vous comprenez pourquoi la Guémara peut dire tranquillement, on peut être sauvé, c'est-à-dire acquérir l'être vrai des béatitudes du monde à venir, avec n'importe quelle vertu, n'importe quand, si elle a été authentique. Par un geste, on peut acquérir son monde, dit la Mishnah. Kana olavo besa'ahat. Mais comment c'est jamais lequel, il faut être scrupuleux sur tout. Parce que c'est caché. Et c'est normal qu'il en soit ainsi. Personne ne sait sur quel geste il joue sa destinée. Parce que s'il le savait, ça n'aurait aucun sens. On jouerait à risque calculé. Le casino dont je vous parle est un casino où il n'y a pas de... Comment on appelle ça? De martingale. Oui. Et revenons donc à notre problème. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape apparaît avec Isaac. Et Isaac est le juste qui connaît Dieu dans la perspective, dans la médiation, dans la dimension complémentaire. C'est-à-dire celui qui réclame le prix du don de l'être. C'est Isaac qui perçoit la relation à Dieu comme étant cet effort qu'il faut faire pour remonter au niveau du projet. Abraham est celui qui est dans la position qui sait qu'il reçoit. Isaac est dans la position de celui qui sait qu'il doit rendre pour payer le prix. Effectivement, c'est son histoire. L'essentiel de l'histoire d'Isaac, c'est d'avoir à accéder à ses vertus qui consiste à accepter de rendre l'être, j'allais dire rendre l'âme, mais de rendre l'être pour pouvoir l'obtenir, c'est-à-dire payer le prix du don connu par Abraham. Et donc, ce n'est pas pour rien que Isaac doit être le fils d'Abraham. Enfin, je veux dire qu'il est le fils d'Abraham. Le sacrifice est commun, enfin, c'est pas le mot sacrifice, mais l'épreuve a été commune et pour Abraham et pour Isaac. Mais la perception de la vertu et en Abraham et en Isaac de sens inverse, de sens contraire. Le miracle, le mystère, plus, enfin, j'aime pas ce mot de mystère, mais peut-être qu'on peut l'employer ici, c'est que l'un soit fils de l'autre. C'est qu'un juste à la manière d'Abraham nous fabrique un juste à la manière d'Isaac. Et que l'un c'est le fils de l'autre, et que l'un c'est le père de l'autre. Et que ça marche. Alors c'est pourquoi le troisième, Jacob, a pu naître. C'est lui qui est capable de surmonter cette contradiction. Parce qu'il y a vraiment une contradiction. Elle consiste en ceci, c'est que nous sommes sollicités par deux impératifs contraires. Pour pouvoir être, il faut recevoir l'être. Mais recevoir l'être, c'est la racine du mal. Le bien, c'est donner l'être. Et par conséquent, nous sommes en quelque sorte écartelés dans une impossibilité. C'est la dialectique de cette impossibilité que nous raconte la Bible dans le récit de l'acquisition de l'identité Israël, c'est-à-dire de l'acquisition des étapes de la conscience morale. D'abord, passer par le stade d'Abraham, savoir que l'être est reçu en grâce, ensuite passer par le stade d'Isaac pour arriver à celui de Jacob, à être capable de rendre cet être qui a été reçu en grâce, de telle sorte de pouvoir le payer. Vous avez dû remarquer dans le texte de la Bible, dès que Isaac dit « je suis d'accord », Dieu dit « Abraham ne le touche pas ». Ça y est, c'est acquis. Ce qui était exigé, c'était le geste de l'acquisition de la vertu, et non pas du tout le fait de rendre l'être. Parce que là, la contradiction serait monstrueuse. Là, ce serait un mythe, ce ne serait pas la vie. Ce serait une mythologie, mais pas la vie. Le fait qu'effectivement Dieu réclame, les rabbins diraient à quoi ils jouent. Vous comprenez, vous. Mais dans la vie, c'est sérieux. Ce que Dieu veut savoir, c'est si Isaac est prêt à... Il a été aidé par Abraham. Mais si Isaac est prêt à dire « oui, je suis prêt », alors dès qu'il a dit « je suis prêt », eh bien, l'affaire était close. Alors Dieu a dit « ça y est, c'est à toi ». Et dans tout effort de la vertu, il y a cet effort qui consiste à être celui qui donne l'être, et pris au sérieux, être celui qui donne l'être, et ça veut dire d'abord rendre l'être qu'on a reçu. Parce que sinon, on joue à donner un petit peu si c'est sérieux, on donne tout. Parce qu'il y a, l'être est indivisible. Si vous voulez. Bien. Il n'y a d'autre certitude que le satellite visage. Mais Dieu n'en veut pas. Ce qu'il voulait, c'est faire passer l'examen. Alors, pousser le mythe jusqu'à la mort d'Isaac, ça c'est le mythe, c'est pas la Bible. Vous comprenez de quoi je veux parler? Ça, vous trouverez dans les Ephésiens ou ailleurs. Vous trouvez ça chez les Goïs, pas chez les Hébreux. Effectivement, je crois qu'on peut dire que la moralité a été fondée dans cette histoire d'Abraham et d'Isaac. Eh bien, nous allons voir très rapidement, je vois avec terreur qu'il est déjà tard, alors je vais aller très vite, je dirais. Nous avons dans une question que la Guémara fait poser à Moïse, lorsque Moïse est monté au Sinaï pour recevoir la loi. Et le détail de cette question nous donne la dialectique de ces quatre moments que Isaac a vécu et qui consiste au fond dans cette transformation du fait de recevoir l'être dans le fait d'être prêt à donner l'être. Et ce n'est que lorsqu'on arrive à ce niveau qu'il y a le stade de la Kedusha. Mais il y a tous les quatre moments du point de départ au point d'arrivée et qui ont été vécus par les niveaux d'identité de Isaac. Je ne crois pas que j'aurai ce soir le temps de reprendre le texte fondamental qui résout cette directive et qui se trouve dans l'enseignement du Rav Ashlag, dans le plus contemporain de l'enseignement des Kabbalistes. Mais je vais en tout cas vous rappeler ce texte de la Gemara et la manière dont Moïse a posé cette question.